La rumeur de la foule accrue grandissait sous la voûte. On entendait des voix qui parlaient presque haut. On se montrait des hommes célèbres qui posaient contents d'être vus et gardant avec soin leur maintien adopté devant le public, habitués à se montrer ainsi dans toutes les fêtes dont ils étaient, leur semblait-il, les indispensables ornements, les bibelots d'art. Rival reprit « Dis donc, mon cher, vous qui allez souvent chez le patron, est-ce vrai que Madame Walter et Duroy ne se parlent jamais plus ?»«
Jamais !» Elle ne voulait pas lui donner la petite, mais il tenait le père par des cadavres découverts, paraît-il, des cadavres enterrés au Maroc. Il a donc menacé le vieux de révélations épouvantables. Walter s'est rappelé l'exemple de la Roche-Mathieu, mais il a cédé tout de suite. Mais la mère, entêtée comme toutes les femmes, a juré qu'elle n'adresserait plus la parole à son gendre. Ils sont rudement drôles en face l'un de l'autre. Elle a l'air d'une statue, de la statue de la vengeance. Il est fort gêné, lui, bien qu'il fasse bonne contenance, car il sait se gouverner, celui-là.
Des confrères venaient leur serrer la main. On entendait des bouts de conversation politique, et vagues comme le bruit d'une mer lointaine. Le grouillement du peuple amassé devant l'église entrait par la porte avec le soleil, montait sous la voûte, au-dessus de l'agitation plus discrète du public d'élite massé dans le temple. Tout à coup, le Suisse frappa trois fois le pavé du bois de sa hallebarde. Toute l'assistance se retourna avec un long froufrou de jupe et un remuement de chaises. Et la jeune femme apparut, au bras de son père, dans la vive lumière du portail. Elle avait toujours l'air d'un joujou, d'un délicieux joujou blanc coiffé de fleurs d'oranger. Elle demeura quelques instants sur le seuil, puis, quand elle fit son premier pas dans la nef, les orgues poussèrent un cri puissant, annoncèrent l'entrée de la mariée avec leur grande voix de métal. Elle s'en venait, la tête baissée mais point timide, vaguement émue, gentille, charmante, une miniature d'épousée. Les femmes souriaient et murmuraient en la regardant passer. Les hommes chuchotaient « exquise, adorable ». Monsieur Walter marchait avec une dignité exagérée, un peu pâle, les lunettes d'aplomb sur le nez. Derrière eux, quatre demoiselles d'honneur, toutes les quatre vêtues de rose et jolies, toutes les quatre, formaient une cour à ce bijou de reine. Les garçons d'honneur, bien choisis, conformes au type, allaient d'un pas qui semblait réglé par un maître de ballet. Madame Walter les suivait, donnant le bras au père de son autre gendre, au marquis de la Tour Yvelin, âgé de 72 ans. Elle ne marchait pas. Elle se traînait, prête à s'évanouir à chacun de ses mouvements en avant. On sentait que ses pieds se collaient aux dalles, que ses jambes refusaient d'avancer, que son cœur battait dans sa poitrine comme une bête qui bondit pour s'échapper. Elle était devenue maigre. Ses cheveux blancs faisaient paraître plus blême encore et plus creux son visage. Elle regardait devant elle pour ne voir personne, pour ne songer peut-être qu'à ce qui la torturait. Puis, Georges Duroy parut avec une vieille dame inconnue. Il levait la tête sans détourner non plus ses yeux fixes, durs, sous ses sourcils un peu crispés. Sa moustache semblait irritée sur sa lèvre. On le trouvait fort beau garçon. Il avait l'allure fière, la taille fine, la jambe droite. Il portait bien son habit que tachait, comme une goutte de sang, le petit ruban rouge de la Légion d'honneur. Puis venaient les parents. Rose avec le sénateur Rissolin. Elle était mariée depuis 6 semaines. Le comte de la Tour Yvelin accompagnait la vicomtesse de Percemur. Enfin, ce fut une procession bizarre des alliés ou amis de Duroy qu'il avait présenté dans sa nouvelle famille. Gens connus dans l'entremonde parisien, qui sont tout de suite les intimes, et à l'occasion, les cousins éloignés des riches parvenus, gentilshommes déclassés, ruinés, tachés, mariés parfois, ce qui est pis. C'était Monsieur de Bellevigne, le marquis de Banjolin, le comte et la comtesse de Ravenel, le duc de Ramorano, le prince Kravalov, le chevalier Valréali, puis des invités de Walter, le prince de Guerche, le duc et la duchesse de Ferracine, la belle marquise des Dunes. Quelques parents de Madame Walter gardaient un air comme il faut de province au milieu de ce défilé. Et toujours les orgues chantaient, poussés par l'énorme monument, les accents ronflants et rythmés de leur gorge puissante, qui crient au ciel la joie ou la douleur des hommes. On referma les grands battants de l'entrée, et tout à coup il fit sombre comme si on venait de mettre à la porte le soleil. Maintenant, Georges était agenouillé à côté de sa femme dans le chœur, en face de l'autel illuminé. Le nouvel évêque de Tanger, crosse en main, mitre en tête, apparut, sortant de la sacristie pour les unir au nom de l'Éternel. Il posa les questions d'usage et changea les anneaux, prononça les paroles qu'il lit comme des chaînes, et il adressa aux nouveaux époux une allocution chrétienne. Il parla de fidélité, longuement, en termes pompeux. C'était un gros homme de grande taille, un de ces beaux prélats chez qui le ventre est une majesté. Un bruit de sanglots fit retourner quelques têtes. Madame Walter pleurait, la figure dans ses mains. Elle avait dû céder. Qu'aurait-elle fait ? Mais depuis le jour où elle avait chassé de sa chambre sa fille revenue en refusant de l'embrasser, depuis le jour où elle avait dit à voix très basse à Duroy qui la saluait avec cérémonie en reparaissant devant elle « Vous êtes l'être le plus vil que je connaisse. Ne me parlez jamais plus, car je ne vous répondrai point. » Elle souffrait une intolérable et inapaisable torture. Elle haïssait Suzanne d'une haine aiguë, faite de passions exaspérées et de jalousies déchirantes, étrange jalousie de mère et de maîtresse, inavouable, féroce, brûlante comme une plaie vive. Et voilà qu'un évêque les mariait, sa fille et son amant, dans une église, en face de 2000 personnes et devant elle. Et elle ne pouvait rien dire. Elle ne pouvait pas empêcher cela. Elle ne pouvait pas crier « Mais il est à moi, cet homme, c'est mon amant. Cette union que vous bénissez est infâme. » Plusieurs femmes, attendries, murmurèrent, comme la pauvre mère était émue. L'évêque déclamait « Vous êtes parmi les heureux de la terre, parmi les plus riches et les plus respectés, vous, monsieur, que votre talent élève au-dessus des autres, vous qui écrivez, qui enseignez, qui conseillez, qui dirigez le peuple, vous avez une belle mission à remplir, un bel exemple à donner. » Duroy l'écoutait, ivre d'orgueil. Un prélat de l'église romaine lui parlait ainsi à lui, et il sentait derrière son dos une foule illustre venue pour lui. Il lui semblait qu'une force le poussait, le soulevait. Il devenait un des maîtres de la terre, lui. Lui, le fils des deux pauvres paysans de Canteleu. Il les vit tout à coup, dans leur humble cabaret, au sommet de la côte, au-dessus de la grande vallée de Rouen, son père et sa mère, donnant à boire aux campagnards du pays. Il leur avait envoyé 5 000 francs, en héritant du comte de Vaudrec. Il allait maintenant leur en envoyer 50 000, et ils achèteraient un petit bien. Ils seraient contents, heureux. L'évêque avait terminé sa harangue. Un prêtre, vêtu d'une étole dorée, montait à l'autel. Et les orgues recommencèrent à célébrer la gloire des nouveaux époux. Tantôt, elles jetaient des clameurs prolongées, énormes, enflées comme des vagues, si sonores et si puissantes, qu'il semblait qu'elles dussent soulever et faire sauter le toit pour se répandre dans le ciel bleu. Leur bruit vibrant emplissait toute l'église, faisait frissonner la chair et les âmes. Puis tout à coup elle se calmait, et des notes fines, alertes, couraient dans l'air, effleuraient l'oreille comme des souffles légers. C'étaient de petits chants gracieux, menus, sautillants, qui voltaient ainsi que des oiseaux. Et soudain, cette coquette musique s'élargissait de nouveau, redevenant effrayante de force et d'ampleur, comme si un grain de sable se métamorphosait en un monde. Puis des voix humaines s'élevèrent, passèrent au-dessus des têtes inclinées. Vori et Landec de l'opéra chantaient. L'encens répandait une odeur fine de benjoin, et sur l'autel le sacrifice divin s'accomplissait. L'homme-dieu, à l'appel de son prêtre, descendait sur la terre pour consacrer le triomphe du baron Georges du Roi. Belle amie, à genoux à côté de Suzanne, avait baissé le front. Il se sentait, en ce moment, presque croyant, presque religieux, plein de reconnaissance pour la divinité qui l'avait ainsi favorisé, qui le traitait avec ses égards. Et sans savoir au juste à qui il s'adressait, il la remerciait de son succès. Lorsque l'office fut terminé, il se redressa et, donnant le bras à sa femme, il passa dans la sacristie. Alors commença l'interminable défilé des assistants. Georges, affolé de joie, se croyait un roi qu'un peuple venait acclamer. Il serrait des mains, balbutiait des mots qui ne signifiaient rien, saluait, répondait aux compliments. « Vous êtes bien aimable. » Soudain, il aperçut Madame de Marelle et le souvenir de tous les baisers qu'il lui avait donnés, qu'elle lui avait rendus, le souvenir de toutes leurs caresses, de ses gentillesses, du son de sa voix, du goût de ses lèvres, lui fit passer dans le sang le désir brusque de la reprendre. Elle était jolie, élégante, avec son air gamin et ses yeux vifs. Georges pensait « Quelle charmante maîtresse tout de même !» Elle s'approcha un peu timide, un peu inquiète, et lui tendit la main. Il la reçut dans la sienne et la garda. Alors, il sentit l'appel discret de ses doigts de femme, la douce pression qui pardonne et reprend. Et lui-même, il la serrait, cette petite main, comme pour dire « Je t'aime toujours, je suis à toi ». Leurs yeux se rencontrèrent, souriants, brillants, pleins d'amour. Elle murmura de sa voix gracieuse « À bientôt, monsieur ». Il répondit gaiement « À bientôt, madame ». Et elle s'éloigna. D'autres personnes se poussaient. La foule coulait devant lui comme un fleuve. Enfin, il s'éclaircit. Les derniers assistants partirent. Georges reprit le bras de Suzanne pour retraverser l'église. Elle était pleine de monde, car chacun avait regagné sa place, afin de les voir passer ensemble. Il allait lentement, d'un pas calme, la tête haute, les yeux fixés sur la grande baie ensoleillée de la porte. Il sentait sur sa peau courir de longs frissons, ces frissons froids que donnent les immenses bonheurs. Il ne voyait personne, il ne pensait qu'à lui. Lorsqu'il parvint sur le seuil, il aperçut la foule amassée, une foule noire, bruissante, venue là pour lui, Georges du Roi. Le peuple de Paris le contemplait et l'enviait. Puis, relevant les yeux, il découvrit là-bas, derrière la place de la Concorde, la chambre des députés. Et il lui sembla qu'il allait faire un bond du portique de la Madeleine au portique du palais Bourbon. Il descendit avec lenteur les marches du haut perron entre deux haies de spectateurs. Mais il ne les voyait point. Sa pensée maintenant revenait en arrière et devant ses yeux éblouis, par l'éclatant soleil, flottait l'image de Madame de Marelle, rajustant en face de la glace les petits cheveux frisés de ses tempes, toujours défaits au sortir du lit.